Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Condamné à 30 ans de prison, c'est le verdict surprise tombé hier pour le frère de Mohamed Merah. Abdelkader Merah, reconnu coupable de complicité dans l'assassinat de 7 personnes, des enfants juifs et des militaires à Toulouse et Montauban en 2012. Précision de Delphine Gaucho dès le début de ce journal.
Et puis des militants écologistes prêts à braver la loi pour se faire entendre.
Ils veulent bloquer la République des pollueurs, selon leurs mots. 14 ONG et associations ont préparé une vaste opération de désobéissance civile pour obtenir des mesures d'urgence contre le changement climatique. Nous entendrons Pauline Boyer du mouvement Alternatiba.
Qu'est-ce qui bloque dans l'adoption des enfants en France ?
C'est la question confiée à une mission parlementaire alors que 14 000 couples ont un agrément pour l'adoption. Seuls 751 enfants leur ont été confiés l'année dernière. C'est le 9e vendredi consécutif de manifestations en Algérie. Parmi les revendications, il y a celle d'une présidence collégiale. Plus de précisions avec Thibaut Cavaillès dans un instant.
Objectif lune pour la Chine à l'horizon 2035.
Nous irons à Pékin, voir comment se prépare l'envoi des premiers Chinois pour fouler le sol lunaire. Et puis la question du jour, Guillaume.
Réseaux sociaux, comment les gilets jaunes ont-ils réussi à se fédérer aussi vite ? C'est un peu la rubrique. Il y a un truc, Sophie, on posera la question à Adrien Sénéca, journaliste au Monde.
Le frère de Mohamed Merah, condamné hier à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat par la cour d'assises spéciale de Paris après 12 heures de délibéré. Abdelkader Merah a donc été reconnu coupable en appel pour son rôle dans les 7 meurtres commis en 2012. Des enfants juifs tués dans une école et des soldats à Toulouse et à Montauban. Delphine Gaucho, bonjour.
Bonjour.
En première instance, Abdelkader Merah avait été acquitté des faits de complicité et condamné à 20 ans de prison pour les seuls faits d'association de malfaiteurs terroristes. Ce verdict, donc, est une surprise, Delphine.
Oui, c'est une surprise et surtout une grande déception pour la défense d'Abdelkader Merah, comme sonné hier à l'énoncé du verdict, elle qui a bataillé contre l'accusation, contre les parties civiles, sur cette notion de complicité. Cette question était devenue, au fil du premier procès et surtout cette année, le nœud des audiences. Évidente pour l'accusation et les parties civiles, sans fondement et surtout sans preuve pour les avocats d'Abdelkader Merah. Deux cours d'assises spéciales et donc deux lectures diamétralement opposées de ce dossier. Il y a un an et demi, les juges avaient estimé que les éléments à charge étaient insuffisants et que le doute devait profiter à l'accusé. Pour les magistrats, la présence d'Abdelkader Merah lors du vol du scooter le 6 mars 2012 et la proximité retrouvée entre les deux frères quelques semaines avant les crimes ne permettait pas d'affirmer qu'il connaissait les intentions terroristes de son frère. Aujourd'hui, c'est une autre analyse juridique que la justice a livrée. Pour elle, Abdelkader Merah était parfaitement informé des projets criminels de son frère. Pour la cour, le vol du scooter fonde la complicité. Elle signe l'aide à la préparation des crimes, comme d'ailleurs les rencontres entre les deux frères. Une série de rencontres jugées dissimulées, selon les motivations du verdict. Aucun coup de fil, aucun SMS, pas d'email. Donc pour la cour, une volonté de ne pas se faire repéré par les policiers, un verdict incompréhensible pour la défense. Quand la justice omet le bénéfice du doute, c'était mieux Éric Dupond-Moretti. Il y a de quoi désespérer de tout.
Merci Delphine Gaucho.
Braver la loi pour obtenir des mesures d'urgence pour le climat, Sophie.
Oui, c'est le concept qu'ont prévu d'appliquer aujourd'hui 14 ONG et associations de défense de l'environnement pour pousser le gouvernement à arrêter une politique des petits pas, comme l'avait dénoncé Nicolas Hulot, et pour lancer dès maintenant une politique de lutte efficace, ambitieuse, contre le dérèglement climatique. Les actions d'aujourd'hui ont été préparées dans le plus grand secret. Pauline Boyer du mouvement Alternatiba explique que la désobéissance civile est une arme puissante.
La désobéissance civile, c'est une action politique qui est une arme puissante pour les changements sociétaux. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans l'histoire, de nombreux droits ont été acquis grâce à la désobéissance civile, comme le droit à l'avortement, le droit de vote des femmes. On a eu une interdiction de culture du maïs OGM. Dans l'histoire, on a vu que c'était une arme puissante. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'utiliser ce mode d'action parce que il y a de plus en plus de personnes qui sont allées marcher dans la rue et qui se demandent maintenant, mais concrètement, qu'est-ce que je fais pour faire changer le système ? Et faire pression sur les politiques, sur les dirigeants. Maintenant, les gens sont prêts à risquer la garde à vue à risquer des peines de prison, à risquer des amendes pour défendre la survie des générations futures, la survie de l'espèce humaine sur Terre. Et donc, c'est ça le but de nos actions. Ce sont des actions qui ne sont pas légales, mais qui sont légitimes parce que nous agissons pour défendre l'intérêt général, pour défendre la protection de la population.
Pauline Boyer du mouvement Alternativa au micro France Culture de Véronique Rebérotte. Pourquoi l'adoption d'enfants en France est-elle si difficile alors qu'une loi adoptée en 2016 devait faciliter notamment l'accès au statut de pupille de l'État pour les mineurs placés avant de rentrer selon les profils dans un processus d'adoption? Il reste encore beaucoup à faire aujourd'hui pour raccourcir les délais et permettre aux familles d'accueil de recevoir ces enfants. Le Premier ministre Édouard Philippe a confié cette semaine une mission sur le sujet à deux parlementaires, la sénatrice Les Républicains Corinne Imbert et la députée La République En Marche Monique Limon. La députée LAREM qui veut aussi se pencher en particulier sur l'organisation actuelle de la procédure.
On constate, et là encore une fois je peux vous donner les chiffres, on constate qu'effectivement il y a beaucoup plus de familles qui ont eu l'agrément que d'enfants adoptés. Il y a 751 enfants adoptés par an, il y a 14 000 familles qui ont l'agrément. Donc il faut qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Aujourd'hui, il y a sur chacun des départements, il y a des conseils de famille qui sont initiés par la loi de 2016, qui sont mis en place pour pouvoir justement regarder cet apparentement. Or aujourd'hui, ça reste quelque chose de départemental. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir des enfants adoptables, c'est pas très joli comme mot, mais bon, et pour lesquels on trouve pas de famille dans le département. Mais il pourrait y avoir une famille dans le département d'à côté. Aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut faire perdurer ça? Est-ce qu'il faut pas? On voudrait regarder effectivement un petit peu tout ce qui se passe, comment ça se passe. Est-ce que la loi de 2016 a vraiment entraîné des changements de pratique ou pas? Et quels sont les freins?
Des propos recueillis par Steven Goyer. Les conclusions de cette mission sont attendues au début du mois de juillet.
7h06 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont. Pardon Sophie, c'est une flèche qui fait couler beaucoup d'encre.
Oui, la flèche de Notre-Dame de Paris et le toit effondré de la cathédrale. Alors qu'Emmanuel Macron a promis de reconstruire l'édifice en 5 ans, le débat s'enflamme autour de la forme que prendra cette reconstruction. Faut-il reconstruire la flèche comme celle de Viollet-le-Duc au 19e siècle ou bien dans l'état qui préexistait avant 1793. Dans la sphère politique, l'opposition à droite et à l'extrême droite a tranché et répond qu'il n'y a pas à en débattre et de reconstruire sans délai à l'identique. Anne Fouquemberg.
Ce sont effectivement les partis les plus conservateurs qui montent au créneau, ceux qui comptent un certain nombre de catholiques dans leur base électorale. Ils s'appuient sur le hashtag « Touche pas Notre-Dame » qui a fleuri sur les réseaux sociaux après les annonces d'Édouard Philippe. C'est le cas notamment pour Marine Le Pen. « Vont-ils nous faire des rooftops au-dessus de Notre-Dame ?» s'interroge également la tête de liste RN aux européennes, Jordan Bardella. Alors qu'à droite, François-Xavier Bellamy dénonce la manie de la disruption. Les Républicains qui ont déjà préparé leurs arguments pour une reconstruction à l'identique de la cathédrale, Gilles Platré est leur porte-parole.
Parce qu'on a une connaissance parfaite de ce qu'était Notre-Dame avant l'incendie, on a le devoir de la reconstruire comme telle. Mais il y a aussi une question de droit, c'est que si l'État se mêlait de mettre à sa sauce, à sa main, un bâtiment qui lui appartient mais qui reste affecté au culte, je pense qu'il sortirait du cadre de la loi de 1905. Donc la question est doublement réglée à mes yeux.
Une pétition vient également d'être lancée sur la plateforme internet change.org. Elle demande de recréer une flèche à l'identique. Pétition signée par la députée La République En Marche Agnès Thil, une députée qui avait évité de peu l'exclusion du parti présidentiel en janvier dernier pour avoir défendu très maladroitement son opposition à la PMA.
Anne Fouquemberg.
7h08, la suite des matins. C'est un nouveau vendredi de manifestation qui est prévu aujourd'hui en Algérie, Sophie.
Le 9e vendredi de contestation d'affilée après la démission du président Bouteflika, les manifestants réclament un changement radical et ne veulent plus voir de représentants de l'ancien système à la tête du pays. Une date pour une prochaine présidentielle a été décidée le 4 juillet prochain, mais les opposants n'en veulent pas. Beaucoup réclament une présidence collégiale, solution provisoire mais indispensable selon eux, après 20 ans de Bouteflika au pouvoir. Thibaut Cavaillès.
L'intérêt d'une présidence collégiale, c'est qu'elle permettrait de ne pas se précipiter vers une élection trop hâtive. Autant d'années de paralysie politique, de phagocytage de l'opposition, cela peut scléroser. Et l'échéance d'une présidentielle, le 4 juillet prochain, avec Ramadan d'ici là, ne permettra pas aux différentes forces politiques de se remettre d'aplomb à temps. Cette présidence a plusieurs têtes. Elle est appelée par la rue et par des partis. Ses missions, assainir les institutions politiques, réconcilier les Algériens avec la chose politique, avant que ne soient organisées des élections dont le caractère reste encore à déterminer et crédible. Ceux qui composeront cette présidence ne doivent pas avoir frayé avec le système toujours en place et doivent représenter les Algériens, des personnes issues de la société civile, mais aussi des technocrates. Des noms déjà circulent, celui de Mustapha Bouchachi notamment, avocat de 65 ans, défenseur des droits de l'homme, très présent depuis le début des manifestations. Il faut aussi que la jeunesse, les femmes, soient représentées, disent les Algériens. Mais deux interrogations cependant sont soulevées par des analystes. Pendant combien de temps et surtout qui pour choisir ceux qui dirigeront cette présidence. Une solution à court terme qui, si, déplorent certains, elle n'est pas associée à l'élaboration d'une nouvelle constitution, ne permettra pas de changer en profondeur le fonctionnement politique de l'Algérie.
Game over, c'est par ces mots que Donald Trump a savouré hier sa victoire après la publication du rapport Mueller qui a établi qu'il n'y avait aucune preuve d'une ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle de 2016. Une victoire mise en scène hier dans un clip de la Maison Blanche.
No collusion.
Pas de collusion, répète Donald Trump à l'issue de 22 mois d'enquête. Mais à propos des accusations d'entrave à la justice, le procureur spécial Mueller évoque plusieurs scènes durant lesquelles Donald Trump a tenté d'influer sur le cours de la justice et de torpiller son enquête en voulant notamment le limoger. On a marché sur la Lune, c'est ce que rêve de dire Pékin, un objectif fixé à l'année 2035 pour poser le pied sur le sol lunaire, 50 ans après la mission américaine Apollo 11. Pour réussir cette mission, la Chine s'est donné les moyens, elle injecte des milliards dans un programme piloté par l'armée. À Pékin, les précisions de Dominique André.
Les missions se succèdent pour préparer l'arrivée du premier Chinois sur la Lune aux alentours de 2035. Plusieurs sondes ont déjà été envoyées, ainsi qu'un robot qui explore en ce moment la face cachée de la Lune, explique le professeur Tiao Weixin de l'université de Beida.
Nous avons terminé la deuxième étape qui était d'atterrir sur la Lune. À la fin de cette année, la sonde Tianhe 5 va collecter des échantillons à la surface de la Lune. Et puis il y aura la quatrième étape avec Tianhe 6 qui va atterrir au pôle sud de la Lune et ramènera les échantillons. Ensuite, on construira une base sur la Lune avec un centre de recherche scientifique qui, au début, ne sera pas habité.
La base lunaire sera formée de plusieurs cabines en tubes reliées les unes aux autres et remplies d'oxygène. Dans un premier temps, des robots y travailleront. Des étudiants ont passé un an dans une réplique de cette base à l'université de Beirang où enseigne le professeur Wang Jun.
Voyager et vivre pendant longtemps dans l'espace, ce n'est pas une simple question d'avoir de quoi boire ou manger et respirer de l'oxygène. Il y a beaucoup d'autres facteurs comme la température et l'humidité à l'intérieur, la propreté de l'air respirable ou encore la structure de la construction contre les radiations.
La Lune n'est qu'une étape, prévoit déjà le vieux professeur, pour aller dans les profondeurs de l'espace.
Le Parlement grec a voté une résolution demandant au gouvernement d'agir officiellement en vue d'obtenir de l'Allemagne des réparations financières pour les crimes et atrocités commises pendant l'occupation nazie. C'était il y a 70 ans. Plus de précisions à 8h sur France Culture. La météo, du soleil partout aujourd'hui, sauf le long des Pyrénées. Des températures en hausse encore aujourd'hui, avec 15 à 18 degrés ce matin, même jusqu'à 20 degrés au bord de la Méditerranée. 15 à Pau, 19 à Paris, jusqu'à 20 degrés à Marseille.